soir, nous continuons la saga Mars Attacks avec la récente publication, ou plutôt la republication de ce livre, Socialisme utopique et socialisme scientifique, d'Engel. Donc c'est une édition par Jean-Numa Dupin, Gérard Henry, L'Ageux d'Amont. Cette édition est enrichie d'une introduction historique et de plein de notes de bas de page qui contextualisent le texte, ainsi aussi que des extraits d'auteurs du socialisme utopique, ce qui est un peu intéressant, ça donne un peu mieux le contexte historique et les références de ce texte. Je vais être très bref pour vous lancer. Dans le contexte actuel d'éducation populaire au marxisme, en quoi cette brochure d'Engels est utile pour s'initier au marxisme et comment vous avez fait pour la rendre la plus efficace possible dans cette édition?
Je vais commencer par dire quelques mots sur l'ouvrage lui-même. Alors effectivement, dans l'histoire du marxisme, socialisme utopique et socialisme scientifique a une place un petit peu particulière, puisque si vous prenez en gros tous les tirages des ouvrages des classiques de Marx et Engels, les textes les plus connus, le Manifeste du Parti communiste, Le Capital, sous des versions plus ou moins abrégées, bon, il faut savoir que socialisme utopique et socialisme scientifique fait partie des ouvrages qui ont été parmi ceux qui ont été le plus lus dans le monde, dans différentes langues. C'est la première chose. Ensuite, pour introduire très brièvement au contexte de l'édition, parce que c'est un texte qu'on peut trouver ici et là, mais on a souhaité faire une nouvelle édition. Pourquoi? Parce qu'après tout, il en existe des anciennes. Alors, tout d'abord, je rappelle que c'est dans le cadre de l'AGEM, la grande édition Marx Engels, et que l'objectif de l'AGEM, c'est de publier soit des nouvelles éditions, soit des nouvelles traductions des textes de Marx et Engels, en offrant effectivement un appareil critique assez dense, qui permet à la fois d'avoir un niveau de précision assez élevé, et qui permet aussi de remettre les textes véritablement dans leur contexte, à la fois, donc avec ce que vous avez rappelé, une introduction des notes, puis des textes un petit peu en miroir de l'époque, parce qu'il faut voir que Engels, ce texte-là, je vais y revenir, c'est un texte entre guillemets offensif, contre un certain nombre d'auteurs. Le problème, c'est qu'il y a plein d'allusions à Robert Owen, à Fourier. Bon, je sais bien que pour un certain nombre de gens, ça peut encore dire quelque chose, mais pour beaucoup, ça ne veut plus rien dire. Donc si on veut retrouver toute la saveur du texte, il faut faire cet effort de recontextualisation. C'est pas uniquement pour le plaisir de recontextualiser parce qu'on aime bien l'histoire, parce qu'on aime bien le 19e siècle, parce qu'on aime bien socialiste, c'est parce que sinon, on ne peut tout simplement plus rentrer dans ce type de texte. Donc ça, c'est la même chose que je voulais dire. Alors ensuite, il y a quand même quelque chose à rappeler de spécifique. Ce n'est pas une traduction en tant que telle que l'on publie. Plus exactement, c'est la traduction qu'Engels a rédigée lui-même en lien avec le couple Lafargue. Donc Paul Lafargue était marié à Laura Lafargue. Laura Lafargue, c'est une des filles de Marx, donc c'est entre guillemets la famille proche. Mais ce qui est intéressant, c'est que Engels voulait publier ce texte-là en français à un moment donné, à savoir la publication, c'est en 1880. Pourquoi et comment? Et c'est là-dessus que je voudrais entendre brièvement, puis ensuite qu'on revienne sur des éléments de polémique un peu plus précis. Alors, tout d'abord, pour comprendre ce souci de publier directement en français, il faut avoir en tête qu'en 1880, pour Marx et Engels, la France est un pays très important pour le développement du socialisme. Marx a, entre guillemets, fait des progrès théoriques et politiques considérables au cours d'un séjour en France entre 1843 et 1845, qui joue un grand rôle pour lui. Et pour Marx et Engels, la France, ça reste le pays qui, justement, a inventé les premiers socialismes, dont ces socialismes utopiques, avec des gens comme Charles Fourier, et c'est aussi le pays où ont eu lieu toute une série de grandes révolutions, dont la dernière en date, la Commune de Paris de 1871. Et, pour le dire très rapidement, ce texte, il va s'adresser à qui? Il va s'adresser en partie à des socialistes qui ont vécu l'expérience de la Commune, pour ceux qui ont survécu, et à ceux qui sont influencés par les idéologies de la Commune de Paris. On est quelques années après. Bien. Donc ça, c'est vraiment essentiel de l'avoir en tête. Alors ensuite, il y a un contexte un peu plus immédiat. Après la Commune, qu'est-ce qu'a fait Marx par rapport à la France? Il est à Londres depuis 1848, bon, c'est quelques séjours à l'étranger, mais très peu, parce qu'il est réfugié, il n'a pas le droit d'être ailleurs, on lui a offert l'hospitalité politique à Londres, il est là-bas. Il a rédigé le Capital, il a publié le premier volume en langue allemande en 1867, et un de ses objectifs, après la Commune de Paris, ça a été de publier le Capital en français. avec toute une série de difficultés, mais il est arrivé en livraison entre 1872 et 1875. Pour schématiser, j'ai envie de dire, Marx a réussi à introduire quand même une partie non négligeable de son œuvre théorique, en publiant en français Le Capital. Tiens. Sauf que c'est un texte difficile d'accès, que beaucoup de militants ne peuvent pas véritablement maîtriser. Donc, un des objectifs après ce coup-là, j'ai envie de dire, c'est d'essayer d'avoir un texte qui expose leur socialisme spécifique, qu'ils qualifient donc, on y reviendra tout à l'heure, scientifique, et qui est, entre guillemets, un socialisme qui se démarque du socialisme sous différentes formes, peut-être qu'il peut exister en France. Autre élément de contexte très important, c'est le contexte directement politique. Je disais, Marx a introduit le capital pour des raisons théoriques. La grande lutte qu'il a menée notamment dans la Première Internationale, qui est donc en phase de décomposition au début des années 1870, c'était la lutte notamment contre Proudhon et le proudhonisme, sur un certain nombre de points. Il y a un enjeu sur, autour d'une série de textes, mais ce que se disent Marx et Engels, c'est qu'il faut qu'il y ait un texte simple, assez bref, qui condense ce qu'il pense sur un certain nombre de points politiques, théoriques et économiques, qui puisse être, je ne vais pas dire maîtrisé par tous les militants, parce que c'est une abstraction de dire ça, ça ne veut rien dire, c'est maîtrisé par au moins quelques cadres socialistes en France qui puissent lire ça et introduire ça après auprès des militants. Et le contexte encore plus précis, puisqu'on est en 1880, c'est que en 1879, il y a eu un événement important dans l'histoire politique française, qui dépasse d'ailleurs le socialiste, ça concerne même tous les partis de droite conservateurs, puisque pour la première fois, vous avez un parti politique qui est constitué, structuré et hiérarchisé, qui s'appelle le Parti Ouvrier. Il y a eu un congrès à Marseille en 1879, pour une mémoire militante, on appelle ça l'immortel congrès. Alors comme il disait à l'époque l'historien Claude Villard, qui avait beaucoup travaillé sur ce congrès, il dit, bon, faut pas, ça a été un peu idéalisé après, il a fait une auberge espagnole, il avait tous les courants socialistes, à part dans tous les sens, il avait contrôlé le congrès, donc voilà. Mais, ça a beau être très pluriel, un peu confus et autres, c'est la première fois qu'en tant que parti ouvrier indépendant, un parti français existe. Donc à partir de là, il y a un contexte politique qui amène donc Marx et Engels à s'intéresser de près à tout cela. Alors, c'est une histoire parallèle parce que qui sont les grands acteurs du congrès du Parti Ouvrier? Il y en a un qui notamment s'appelle Juliette, qui va jouer un grand rôle dans l'introduction du marxisme politique ensuite. Alors il est malade, il ne peut pas être au congrès, mais qu'importe l'anecdote. Mais il va aller voir Marx à Londres pour élaborer les considérants du Parti Ouvrier. Donc il y a des liens qui s'établissent. Alors Engels, parallèlement, mène l'opération de traduction de socialisme utopique et socialisme scientifique. D'où vient ce texte, et ensuite de quoi il est question, elle est un peu plus précise. C'est une réécriture de chapitres d'un ouvrage qui existe déjà en allemand. Quel est cet ouvrage? C'est l'Antidurine, publié en allemand en 1878. Alors pour les amateurs de la dissociation de Marx et Engels, qui sont nombreux, sachez que là, on peut rien faire pour eux, parce que on peut pas faire pour eux grand-chose en général, mais là, on peut vraiment rien faire, puisque c'est un ouvrage d'Engels, anti-During, je vais en dire ce que c'est, parce que During, c'est pas forcément grand-chose à grand monde, et que Marx a rédigé quelques chapitres de l'anti-During, et qu'on a une correspondance fournie qui montre que c'est un ouvrage élaboré en commun. During, c'était un personnage, si je peux dire, un peu fantasque, en plus qui est développé ensuite un antisémitisme absolument délirant, mais qui était assez influent à l'époque, c'est un privat d'Onset, donc un universitaire, qui représente un courant du socialisme. Et donc, comme Marx et Engels n'avaient pas encore pris le temps de définir tout ce qu'ils voulaient sur un certain nombre de points dans une sorte de bréviaire un peu dense, ils ont rédigé un ouvrage qui s'appelle l'Anti-During, donc contre-During, et ils prennent les choses point par point. Attention, hein, c'est un ouvrage dense, de plusieurs centaines de pages, et donc ils cherchent ensuite à le décliner de différentes manières, à une histoire très compliquée de l'Anti-During déclinée sur toute une série de façons, mais comme souvent, les textes théoriques d'une certaine ampleur passent assez mal dans le contexte français, où on aime bien, notamment en français, les orateurs, les grands discours, les choses qui sont un peu droites au but, eh bien, on va décliner l'anti-during par petits bouts, dans toute une série de brochures, et c'est une parenthèse, hein, au XXe siècle, notamment le PCF diffusera ensuite assez peu d'anti-during, qui est objectivement assez difficile à diffuser, mais une série de petits bouts. Et le petit bout, si je puis dire, le plus connu et le plus efficace, c'est trois chapitres de l'Antidurine qui sont réécrits et qui vont donner lieu en français à socialisme utopique et socialisme scientifique. Alors c'est intéressant parce que c'est donc destiné au public français, parce que c'est là où il y a le socialisme, donc l'auberge espagnole, Bigarré, les utopistes et autres, Et ensuite, cet ouvrage va servir de base, en fait, entre guillemets, il va être retraduit, pas strictement, mais repris en allemand, indépendamment de l'antidurine. Et vous avez toute une série de pays dans les années 1880 et 90, on a fait la liste, hein, dans l'édition scientifique, alors je n'ai pas tout en tête, mais en polonais, en italien, en ukrainien, en russe, c'est le socialisme utopique et le socialisme qui va être traduit parce que c'est la brochure qui permet facilement d'introduire à quelques grands principes de dissociation par rapport aux utopies, c'est quelques grands principes de manière plus générale du marxisme. Donc c'est un ouvrage à volonté pédagogique, assez bref, bon, une quarantaine de pages, ça dépend comment vous le mettez en page, enfin bref, c'est pas extrêmement long, et c'est véritablement important de le souligner, parce que, y compris à cette époque-là, bon, si je vous demande quel est l'ouvrage le plus simple, le plus diffusé de Marx et Engels, vous allez me dire Manifeste du Parti Communiste, vous aurez raison. Sauf que Manifeste du Parti Communiste, à l'époque, il n'est pas traduit en français. Il est traduit quelques années plus tard, donc, et il sera assez mal diffusé pendant longtemps. Donc c'est ce texte-là qui, quand même, a largement contribué à faire qu'on ait quelques éléments de marxisme, un certain nombre de socialisme français. Et ça a pesé, quand même. Juste pour, avant d'arriver à quelques éléments de contenu un peu plus précis, un autre élément de contexte, c'est que c'est pas une brochure au départ, c'est dans une revue, ça a été publié dans la revue socialiste, qui a été fondée par Benoît Malon. Benoît Malon, c'est un ancien communard, qui lorsqu'il lance la revue socialiste, est plutôt sensibilisé au marxisme, mais qui ensuite va devenir une des têtes de pont du socialisme réformiste, qu'on appelle post-idéaliste, modéré, entre guillemets. Donc, ça, c'est important de le dire, parce que ça a été publié en plusieurs livraisons dans une revue, donc pas forcément très connue, très lue, mais quand même quelques cadres socialistes français ont pu prendre connaissance de la pensée de Marx et Engels à travers cela. Bon, voilà pour les quelques éléments. Faut savoir que c'est un texte qui a été repris aussi, parfois, dans la presse socialiste. Vous savez, les militants socialistes de l'époque, ils connaissent quelques bribes à travers des citations du Capital, quelques citations d'Engels, donc ça c'est un élément important aussi à souligner. Et voilà, en gros, les quelques éléments que l'on peut dire pour qualifier le texte en termes de contextualisation, de dire son importance historique. Alors ensuite, pour en venir au contenu, parce que je vais laisser la parole à Pierre-Henri Lajeudamont sur les éléments de lien et de dissociation entre utopie et science, si on prend la réputation de ce texte et la réputation d'Engels, les gens qui généralement n'ont pas lu le texte vont vous dire, c'est très cité comme texte, mais souvent les gens ne lisent pas, c'est aussi pour ça qu'on l'a réédité, c'est encore le meilleur moyen de le lire, je vous dis, oui alors ça c'est le texte d'Engels où il dit que l'utopie c'est fini, et que maintenant c'est tout ce qu'on fait les utopies c'est nul, et ensuite c'est la science qui arrive avec ses grands sabots, donc évidemment l'armée rouge, Staline, enfin bon voilà, tout ce qui passe dans ce genre de cas, bien. Alors que, si vous prenez même, partout de la vulgate soviétique, puisqu'il en est souvent question qu'on parle lorsqu'on évoque ce texte, ce qui est intéressant, c'est que c'est strictement un rapport dialectique au socialisme utopique. C'est de dire que c'est une étape historique fondamentale, théorique importante, dans laquelle il faut puiser pour aller plus loin. Parce que qu'est-ce qui fait tous ces gens, Charles Fourier, qu'on réédite maintenant beaucoup depuis 20-30 ans, des gens extraordinaires, Roberto Owen et autres, mais ces textes-là, au XXe siècle, ont souvent été édités d'abord par des marxistes, y compris orthodoxes, pour dire « Regardez les utopistes, ce n'est pas suffisant », mais vous avez quelques éléments à partir desquels est né le socialisme, dont il faut quand même prendre quelque chose pour aller plus loin. D'ailleurs, quand ils l'éditeront en allemand, le titre de l'ouvrage, c'est pas socialisme utopique, c'est scientifique, c'est de l'utopie vers la science. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui était contenu dans les socialistes utopiques était bon à rejeter, et qu'il y avait un rapport à travailler dessus qui était important. Je laisse ça, c'est pas empiéter trop. Pour dire quand même quelques éléments aussi sur le contenu du texte, effectivement, dont on a dit grand mal après avoir dit que c'était absolument extraordinaire, mais je pense que c'est pour ça que c'est un moment historique intéressant, historique nous, hein, pour y revenir, c'est que, nous discutions en aparté de textes connus de Kautsky puis de Lénine, vous savez, les trois sources et les trois parties constitutives du marxisme, qui ont des textes effectivement qui ont une assez grande efficacité hein, sur le lien entre la politique française, l'économie politique britannique et la philosophie allemande. Il faut bien dire que ce texte d'Engels a une vertu pédagogique assez importante et assez extraordinaire de ce point de vue-là. Parce qu'il met en rapport à la fois la fécondité et les limites des utopistes, la nature très politique du socialisme français, de la Révolution française, mais en même temps les impasses théoriques. Il faut toujours se souvenir que précisément c'était destiné à des Français avant tout. Et les révolutions parallèles, hein, il y a quelques formules très éclairantes entre la révolution bourgeoise française, la révolution économique britannique et le développement de la philosophie allemande. Et je trouve que ce texte, pour quelqu'un qui finalement ne connaîtrait pas grand-chose à cet univers mental et politique qu'est le marxisme de l'époque. Alors, je n'ai pas fait tout le topo, en plus c'est un peu ma tarte à la crème, comme je fais dans d'autres vidéos, je ne dis pas trop, mais c'est aussi le moment où l'adjectif marxiste va se répandre, on va l'utiliser d'abord de manière polémique du côté des anarchistes, et ensuite on va le reprendre de manière positive. Mais ce texte, il contribue fortement. Parce que d'une certaine manière, il n'y aurait pas eu de marxiste, si je puis dire, en ce moment-là, en France, et par la suite, si Marx n'avait publié, entre guillemets, que Livrain du Capital, parce qu'il était trop difficile pour beaucoup de gens à s'approprier. Mais des textes comme ça ont eu cette vertu de faire découvrir un certain nombre de choses à des gens qui probablement n'auraient pas compris des logiques même élémentaires, que ce soit la lutte de classe ou toute une série de processus sociaux, si ce genre de texte n'avait pas existé. Et de ce point de vue-là, y revenir et le lire aujourd'hui, il me paraît intéressant, quoi que les gens en pensent ensuite, parce que ça reste abordable, mais, et je fais effectivement la promotion du livre, mais je vous dis, parce qu'on y a passé comme un certain temps, c'est un peu un paradoxe, c'est un texte assez court, c'est pas, il est déjà disponible, sauf que si vous voulez que les gens le relisent un peu aujourd'hui, il faut réexpliquer, je vous disais au début, Owen, Fourier, puis toute une série d'éléments, d'allusions, de contexte, et vous savez, si vous regardez les différentes éditions dans la manière dont elles ont été retravaillées, y compris par le PCF ensuite, et là, on a fait la liste, hein, des éditions, mais au-delà de la liste, on a vu comment ils ont été réédités. Et socialisme utopique et scientifique, quand ils rajoutaient parfois des sous-titres. Après, les gens crient, évidemment, quand vous dites, ah, mais c'est scandaleux, ils ont charcuté. D'accord, ils n'ont pas charcuté, ils ont rajouté des titres pour bien dire, là, Engels va vous parler d'eux, etc. Mais je dirais que c'était fidèle, non pas au texte en tant que tel, puisqu'ils ont touché, mais à ce que voulait faire Engels dans ce texte. Vous voyez, très bien. Et de ce point de vue-là, c'est typiquement de la bonne vulgarisation. Vous voyez. Sauf que, comme évidemment, c'est la vulgarisation quand même marquée par son époque, nous, on a essayé de faire un travail d'introduction à la critique, et surtout de mettre en annexe eh ben, les gens dont ils parlent, quand même. Parce que Owen, Fourier, aujourd'hui, on ne sait plus très très bien. On a rajouté un texte de Georges Sorel aussi, qui a joué un rôle important dans l'introduction du marxisme, la discussion du marxisme au début du XXe siècle sur l'utopie. Donc voilà, je pense que c'est un texte dont on peut se saisir encore assez facilement aujourd'hui pour introduire au marxisme, à condition effectivement d'avoir, à mon avis, ce type d'édition. Et d'ailleurs, la GEM combine des éditions parfois très érudite sur des textes soit très philosophiques. Là, on va publier aussi, ce sera très utile, mais la totalité des textes de Marx dans le New York Daily Tribune, vous savez, où il a beaucoup écrit. Ça va apparaître dans quelques mois, là, c'est presque achevé, j'ai encore eu les collègues il n'y a pas longtemps. Donc ça, évidemment, c'est très intéressant, mais bon, c'est des centaines de pages d'articles de journaux très contextualisés, donc là, c'est pour un public précis. Mais on a aussi la volonté de tout simplement de faire des éditions assez simples, de textes entre guillemets assez simples, avec tout un appareil critique. C'est utile pour ceux qui s'intéressent au niveau scientifique. Ça évite, à mon avis, un certain nombre de, entre guillemets, scientifiques de dire des bêtises aussi, parce qu'on montre tout le contexte, on est un peu plus compliqué que les anciens. Et puis, ça permet à des gens qui veulent rentrer dans le texte de Marx, en l'occurrence d'Engels, eh bien, d'y rentrer sans avoir trop peur, de décrocher au bout de 3-4 paragraphes, parce que ça évoque une série de personnages dont vous ne connaissez pas. C'est vrai que c'est difficile de comprendre où il veut en venir sur l'utopie et la science en mon point si vous ne savez pas tout ça.
Alors du coup, pour continuer un peu sur l'intérêt donc que présente ce texte, donc effectivement qui permet d'aborder de façon assez aisée du coup le marxisme, c'est l'esprit de ce texte donc à l'origine. Donc juste pour peut-être repréciser effectivement donc, sur la construction du texte même, donc, on a l'impression de la préciser, par la suite on a rajouté effectivement un ensemble de titres et de sous-titres pour faciliter la lecture, mais donc à l'origine, lorsque le texte a été publié pour la première fois, que ce soit dans la revue socialiste ou ensuite très rapidement après en forme brochure, il n'y avait pas donc toute cette compartimentation donc, du texte, mais globalement il y a deux mouvements dans le texte. Le premier mouvement donc, qui est celle justement de la genèse du socialisme, en partant justement de ces socialistes utopiques pour arriver donc à la fin de 86 sur les deux découvertes scientifiques, donc c'est les termes utilisé par Engels donc de Marx, donc à savoir le matérialisme historique d'une part et la découverte de la plus-value d'autre part. Et ensuite la deuxième partie du texte, il va être un exposé plus linéaire des grands principes justement de la théorie du socialisme développée par Marx et Engels. Et donc le texte se découpe en deux grands mouvements. Donc pour ma part, donc comme j'avais déjà travaillé sur le socialisme utopique, je me suis surtout focalisé sur la première partie en fait, pour justement permettre de recontextualiser justement ces premiers socialismes. Donc aujourd'hui, voilà, je vais certainement utiliser ça en termes de premier socialisme, parce que c'est plutôt donc l'usage aujourd'hui de ne plus appeler ces socialismes les socialistes utopiques, on va plutôt appeler ces premiers socialismes, justement parce que, je reviendrai par la suite, voilà, le qualificatif utopique est souvent perçu comme péjoratif, et on considère que voilà, c'est quelque chose qui retire un peu voilà, de l'intérêt de ces socialistes, et justement parce qu'on va mettre en évidence l'aspect pratique, les expérimentations, etc., qui ont pu être mises en œuvre justement dans le sillage de ces premiers socialistes. Alors peut-être quelques rappels justement par rapport à ces premiers socialistes. Donc il y a trois grandes figures principales, donc ce que Engels appelle donc, les trois grands utopistes, ou les fondateurs du socialisme même, donc c'est dire aussi l'intérêt qu'ils leur portent et la reconnaissance qu'ils peuvent avoir justement par rapport à leurs œuvres. Donc le premier, donc historiquement, c'est Saint-Simon, donc Claude-Henri Saint-Simon, donc qui est un des descendants du célèbre mémorialiste, et qui va donc développer toute une réflexion sur l'industrie, donc dans un contexte où justement la révolution industrielle en France est encore balbutiante, c'est vraiment le tout début du 19e siècle, et donc il va quand même développer des premières analyses, ce que reconnaît justement Engels dans le texte, et ce que reconnaît Marx aussi, qui va l'avoir lu particulièrement de près, c'est qu'il va aussi commencer à avoir une première lecture en classe, en fait, de l'histoire, notamment de la révolution française, en mettant bien en évidence voilà, que les oppositions qu'il pouvait y avoir entre, d'une part, donc l'aristocratie, la bourgeoisie qui était ascendante et la classe des non-possédants, donc en fait les classes qui étaient en voie de prolétarisation. Donc ça, un des aspects importants que va retenir justement Marx et Engels. On peut aussi, donc Engels cite aussi un autre apport important de Saint-Simon, c'est aussi l'idée déjà un peu contenue en germe de dépérissement de l'État aussi, avec l'idée que l'économie en fait détermine en fait la structure politique d'un pays. Et qu'en fait, c'est surtout qu'on doit se diriger non plus vers un gouvernement des hommes, mais vers une administration des choses. Donc ça fait partie un peu des situations qui sont souvent reprises justement par Marx et Engels, et qui sont en fait puisées justement chez Saint-Simon. Donc après, je développerai peut-être un peu plus que des questions par rapport à Saint-Simon. Le deuxième grand socialiste utopique, donc c'est Charles Fourier, donc qui effectivement a retenu un regain d'intérêt ces dernières années, notamment aussi juste avant 1968, parce qu'il y a tout un ensemble de ses théories qui concernent notamment la libération des femmes, tout un pan aussi de son œuvre qui avait été longtemps mis un peu sous le boisseau sur la sexualité aussi, qui du coup ont pu prendre un nouvel essor à ce moment-là. Et donc Charles Fourier, c'est aussi donc un socialiste utopiste qui est particulièrement apprécié par Marx et Engels, donc dont l'œuvre se situe également dans la première moitié du 19e siècle, et qui dans une verve gauloise, pour reprendre cette fois-ci donc toujours l'expression d'Engels, va critiquer de façon très acerbe justement le premier essor du capitalisme en France, et notamment donc l'esprit un peu boutiquier des premiers capitalistes français. Donc Engels était lui-même, Fourier était lui-même travaillé dans le commerce, donc il était très très au fait justement de tous ces mécanismes, et il va démonter tous les mécanismes d'agiotage, de spéculation, etc., donc qui va commencer déjà donc à avoir une première critique économique de ces mécanismes commerciaux que Engels et Marx vont justement intégrer d'abord à leurs premières élaborations théoriques, et bien sûr ils vont les poursuivre beaucoup plus loin. Et donc il y a une critique vraiment importante de ce qu'il appelle la civilisation, donc ce qu'en fait la civilisation bourgeoise qui a une naissance, avec la critique aussi de toutes les mœurs bourgeoises, les contradictions de cette société qui est en train d'éclore. Et donc c'est vraiment un des aspects importants de ces sociétés utopiques, c'est vraiment leur dimension visionnaire sur lesquelles Marx et Engels insistent, et parce que justement ils vont très rapidement être raillés par toute la société bourgeoise aussi, et aussi ensuite par un certain nombre de représentants du socialisme allemand aussi, donc avec lesquels Marx et Engels justement auront maille à partir et remettront un peu les choses au clair par rapport à ces premiers socialistes, donc ils vont les défendre d'une certaine façon. Et enfin donc le dernier, Robert Owen, qui lui vraiment est un entrepreneur aussi, qui lui vient donc de Grande-Bretagne, et qui donc est une œuvre théorique un peu moins importante, c'est surtout un praticien, donc il va surtout être connu pour avoir mis en pratique donc sa première théorisation du socialisme, d'accord, qui a imprégné du matérialisme des Lumières, donc toute une théorie des circonstances sur comment est-ce qu'on peut façonner le caractère humain, notamment une place très importante accordée à l'éducation. Et du coup, donc Robert Owen va aussi intéresser Engels, qui lui donc est vraiment à Manchester, donc qui est très proche aussi du coup de ce mouvement donc des Owenistes. Et donc Robert Owen va mettre ses principes en application dans un village, New Lanark, en Écosse, donc qui est une manufacture, et ça va devenir en fait un village un peu modèle, et qui va être visité d'ailleurs par même des têtes couronnées européennes de l'époque, et donc il va jouer dans un grand prestige aussi, donc que ce soit en Grande-Bretagne, mais même plus largement au niveau international. Il va d'ailleurs aussi passer en France au moment de la révolution de 1848 et commençait aussi lui aussi à promouvoir ses propres théories, ce qui explique aussi voilà une certaine concurrence aussi dans cette première phase un peu d'éclosion du socialisme. Et donc c'est aussi sa conversion au communisme qui va provoquer sa chute en fait, parce que justement à partir du moment où il était dans une forme de paternalisme patronal, ça convenait aux élites dirigeantes de cette époque, mais à partir du moment où il est allé plus loin dans sa critique de l'ordre social, qu'il s'est converti au communisme, c'est ce qu'explique Thomas Goethe, c'est à partir de ce moment-là où forcément les choses se sont complexifiées pour lui, et aussi à partir du moment où il a voulu expérimenter, notamment aux États-Unis, ses idées, donc là effectivement ça a pris un tournant un peu plus difficile pour lui. Donc voilà, et donc l'intérêt de cette première partie du texte, c'est qu'on a vraiment une genèse du socialisme, d'accord, qui d'ailleurs est un bon exemple aussi de mise en pratique du matérialisme historique, parce que justement Marx et Engels inscrivent ces sociétés historiques dans leur contexte, et d'une certaine façon c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ne les rejettent pas dans l'utopie pour les disqualifier et pour s'en moquer comme d'autres l'ont fait, mais vraiment pour en expliquant que leur utopisme s'explique justement par les conditions historiques dans lesquelles ces premiers socialistes ont développé leur pensée, et que d'une certaine façon le prolétariat étant très peu développé à ce moment-là était très peu conscient bien évidemment de sa situation, que c'est dans ce contexte-là que ne pouvait émerger d'une certaine façon que ce type d'utopie de construction un petit peu hors sol en dehors du mouvement historique, et que malgré donc ces limites, ça a quand même permis de jeter les bases d'éléments critiques que justement Marx et Engels vont intégrer à leur propre travail d'élaboration théorique, même si bien évidemment ils développeront aussi que la philosophie allemande, bien sûr Hegel, en premier lieu, mais aussi Feuerbach par la suite, ont aussi permis justement de dépasser les apories de ces premiers socialistes pour justement arriver dans une nouvelle dimension du socialisme scientifique justement. Et donc je le rappelais tout à l'heure, donc selon Engels dans ce texte, en tout cas, les deux grandes découvertes qui permettent justement ce passage de l'utopie à la science, c'est les deux découvertes dont il attribue exclusivement à Marx d'ailleurs, donc le matérialisme historique et en parachute donc la plus-value. Donc c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de l'introduction du capital, c'est aussi une façon aussi d'amener le lectorat français à s'intéresser justement à ces lectures économiques, des fois assez ardues, justement, et qui n'est pas forcément toujours très facile d'accès pour les ouvriers français en particulier. Donc c'est dans cette mesure-là qu'il trace un peu le sillon de cette genèse du socialisme scientifique.
Oui, alors autre chose aussi que j'avais vu une question à poser sur l'évolution des éditions de ce texte. Donc dans l'introduction historique, vous écrivez que même si c'est difficile à estimer tellement ça a été pléthorique, il y a eu environ 10 millions de tirages, à peu près, hein, on est dans l'ordre de grandeur, de cette brochure. Donc ça c'était à l'époque où elle était publiée, si j'ai bien compris. Et donc après, j'imagine qu'il y a eu des grosses périodes creuses, hein, notamment dans les années 80-90, à l'ère de l'anticommunisme le plus violent, jusqu'aux années 2000. Mais après, bon, c'est un sentiment, comme je suis pas historien, que je suis pas vraiment dans le milieu de l'édition, je peux pas savoir, mais j'ai l'impression que depuis une dizaine d'années, il y a quand même un regain d'intérêt pour le marxisme, que ce soit parmi des militants ou même parmi des étudiants et des universitaires. Et la question que je pose, ce serait plutôt du point de vue de l'œil de l'éditeur. Par exemple, ce livre-là, combien de tirages et combien d'achats on attend? Il y a aussi une édition concurrente, les éditions Sciences Marxistes, oui, qui publient le même texte. Oui, il y a aussi le Feuerbach dedans, il n'y a pas les annexes, il n'y a pas d'introduction historique dans cette version.
Je trouve que c'est la version allemande qu'ils ont reprise, c'est pas la version française.
Oui, c'est justement c'est une tradition en partie de reprendre l'édition allemande comme la dernière version à publier en français. C'est-à-dire qu'il n'y avait que l'édition ciel à l'époque, mais nous, c'est d'où la gemme, c'est que c'est vraiment l'édition de 1880.
J'ai lu il y a plusieurs années.
Et c'est vrai qu'il y a dans certaines configurations, c'est la reprise de l'édition allemande, je pense, mais bon, au-delà de ces questions philologiques, c'est clair que dans le regain d'intérêt pour Marx, pour le marxiste, qui est réel, qui est un peu contradictoire, hein, parce que d'une certaine manière, il y a un regain d'intérêt, c'est vrai que par rapport aux années 80-90, on en reste à la France. En même temps, ça reste assez circonscrit à des milieux relativement restreints malgré tout. C'est-à-dire, c'est différent avec les années 1960-70, au-delà du contexte politique et social, c'est que globalement, même dans tout ce qui se désigne comme gauche radicale et autres, il y avait eu peut-être un certain regain d'intérêt il y a 10-15 ans, mais j'ai plutôt l'impression que la vague mouffe populiste de gauche et autres a vraiment relégué les références au marxisme. Par exemple, prenez un terme comme exploitation, par exemple, qui n'est pas non plus un très gros mot, enfin c'est même moins fort que lutte de classe. Hein. C'est un bon, mais ça se discute, hein, mais dans le vocabulaire politique, c'est un terme qui est quasiment absent. Hein. Je veux dire, alors que même des sociodémocrates, même pas très radicaux, à une époque, ils parlaient de mot d'exploitation comme un concept descriptif de l'exploitation du travailleur et qu'il fallait faire des réformes. Oui.
Enfin, on parle plutôt de domination.
Oui, j'ai bien remarqué, c'est pour ça que je sais bien. C'est moi, oui, on en parle même beaucoup plus, c'est pour ça qu'il faut, voilà, faut rééquilibrer. Mais bon, en tout cas, il y a quand même un certain regain d'intérêt éditorial, c'est plus facile à introduire et à lire qu'à d'autres époques, mais ce texte-là, je crois, je ne sais pas si c'est en vrai, mais jouit particulièrement d'une assez mauvaise réputation. Je dis un peu tout à l'heure que c'est vraiment, on pense que c'est le texte voilà, du matérialisme grossier, dogmatique, qui renvoie les utopistes. Et comme les utopistes, par ailleurs, sont... Enfin, oui, un peu un côté zadiste, enfin, je caricature, mais... Non, mais c'est vrai, enfin... Non, mais il y en a qui se revendiquent de Fourier, pour les plus cultivés et autres, ils vont aller piocher là-dedans. Et il y a une vraie filiation historique, hein. Par les années 60, ceux qui étaient hostiles à la forme partie aux organisations, parce que c'est un vieux débat, ont toujours un peu puisé dans ces références-là, ça a toujours existé, avec des hauts et des bas. Et là, il y a la dimension aussi écologique, hein, qu'on peut retrouver chez certains utopistes, donc du coup, qui est mis en avant par 5 ans. Donc de ce point de vue-là, ce texte-là, bah, de manière significative, on l'a réédité. Bah, c'est pas du tout le texte qu'on a pu rééditer. Alors, les éditions ADEM, donc Bruxelles, mais qui sont effondrées depuis... Voilà, c'est une réédition il y a une dizaine d'années. On a toute la liste des éditions, voilà. C'était plus disponible. Et effectivement, les éditions de sciences marxistes, qui parfois, d'ailleurs, font un travail... d'édition, bah, je suis pas d'accord avec leur production forcément, hein, mais par exemple, ils ont réédité là il y a un mois, ils m'ont tout leur truc, bref, ils sont aussi pas le manifeste du Parti communiste avec des annexes sur l'histoire éditoriale, pays par pays, c'est une mine d'or, hein, je devrais pas dire ça, parce que
je me fais engueuler par la jeune,
mais ouais, exactement, je trouve que. Je vais pas faire de cette tarif, en plus, je suis un scientifique, donc quand ils croient aussi qu'il est bien fait, je vais pas leur dire, je suis pas d'accord avec moi, franchement, c'est très bien fait. Et effectivement, ce sont les seuls avant nous à avoir réédité Socialisme utopique et Socialisme scientifique, alors un peu brut de décoffrage effectivement, pour le coup. Tout simplement parce que je pense que ce texte-là est très utile pour les raisons qu'on vient d'évoquer, mais que ça ne correspond pas à, trop à la période, ou en tout cas à ce que certains pensent pendant cette période, parce que justement, c'est un peu introduire aux concepts fondamentaux du marxisme, hein, et d'une démarcation par rapport au stade entre guillemets utopique, alors que, par exemple, l'idée d'utopie est extrêmement à la mode en sciences sociales, en sciences humaines, en sciences choses, avec des choses plus ou moins intéressantes, voilà, donc ce texte-là est considéré comme le texte qui ferme la discussion, voilà, de toute manière. Donc il n'est pas... il s'est diffusé honorablement pour un texte de la GEM, mais qu'en plus c'est l'édition GEM, c'est pas une édition, ouais, c'est plutôt une édition en petit format, mais c'est pas non plus une édition populaire militante, donc voilà. Donc c'était l'occasion de le remettre en circulation, et je pense que c'était important de le faire effectivement par rapport à ça, parce que sinon on a une vision, y compris un peu tronquée, de ce qu'a été le marxisme, parce que c'est effectivement le texte qui a été probablement un des plus lus, et pas complètement à tort, dans l'histoire mondiale, donc...
Oui, peut-être juste pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Luc Ducoin, effectivement, donc, il y a... En tout cas, moi, quand j'ai travaillé, j'étais en master en sciences sociales et utopiques, c'est vrai que dans la littérature, on a l'impression, du coup, d'avoir un peu une opposition assez nette entre donc, ceux qui utilisent le socialisme utopique et ceux qui vont plutôt être dans... s'intéresser au marxisme, et c'est vrai que ce texte-là, donc, c'est vraiment le texte un peu... qui met un peu un... comment dire, sans discussion, voilà, entre le socialisme utopique et le socialisme scientifique, comme s'il n'y a pas de passerelle de entre les deux. D'ailleurs, c'est peut-être aussi la faute du titre qui est français, qui est ouais. Peut-être voilà, vraiment un peu en balance les deux, et qu'en fait le titre allemand est peut-être plus conforme à
l'autopie de
Engels, voilà, qui permet vraiment de mettre en évidence une continuité quand même entre le socialisme utopique et donc finalement le travail d'élaboration du socialisme de Marx et Engels. Après, donc, ouais, sur cette question de l'utopie, donc, et de l'utopie rapport avec la science, on a donc créé cette opposition qui pour moi n'est pas tout à fait forcément aussi fondamentale que ça, et notamment pour, si on reprend d'ailleurs les propos de Marx et Engels, donc ça soit leurs propos de jeunesse, mais finalement ils vont pas tellement se démentir non plus dans leurs écrits plus tardifs, d'accord, puisqu'ils vont de toute façon reconnaître l'intérêt de ces socialistes utopiques, qui d'ailleurs pour leur part ne se définissaient absolument pas comme utopistes, d'accord, ils ne considéraient pas que leur travail considéré à construire un petit peu des sociétés idéales, ils avaient vraiment, comme je disais tout à l'heure par rapport à Robert Owen, la volonté que leur théorie soit mise en application, et vraiment une dimension expérimentale qui est très importante, d'accord, c'est aussi pour ça que donc leurs textes sont des fois difficiles d'accès, parce que finalement c'était pas ça le plus important pour eux, le lectorat est assez limité, mais par contre ils se réclamaient par contre aussi des sciences, ils sont tous nés, donc les trois figures donc, que j'ai citées sont nés tous à la fin du XVIIIe siècle, ils sont tous imprégnés voilà, de l'esprit des Lumières, ils sont tous aussi dans ce moment aussi historique où on est des sciences modernes, sciences justement plutôt fondamentales aussi, ils vont s'y intéresser de près. Quand Simon, voilà, qui est un personnage vraiment un peu ubuesque, qui a une vie très très trépidante, on va dire, qui va justement par exemple organiser des dîners pour pouvoir justement s'imprimer des sciences en s'installant à côté des universités, en tout cas de là où se produit le savoir. Donc, ils sont tous dans une démarche scientifique. Donc, bien sûr que, bien évidemment, dans le premier moitié du XIXe siècle, les sciences ne sont pas celles qu'elles sont à la fin du XIXe siècle. Et donc, en fait, Engels et Marx ne font que corriger que la science a évolué. Donc, en fait, effectivement, eux aussi ont pris cette évolution. Engels lui-même suit de très près les évolutions scientifiques. Et donc, c'est juste, en fait, nier le fait qu'il y a une évolution historique et qu'aujourd'hui on peut plus lire un socialisme utopique en pensant que ça peut être des références vraiment politiques qu'on puisse vraiment s'en inspirer parce que c'est vraiment dans notre contexte on peut plus véritablement faire de lien avec aujourd'hui.
Et juste pour insister, si le texte a été immédiatement traduit, diffusé, c'était pas juste pour la beauté de l'art, c'est parce qu'il y avait une grande clarté pédagogique quand même. Et ça, Engels misait beaucoup là-dessus, je pense, enfin, il ne le dit pas explicitement, mais on voit bien qu'il y a quand même toute une série de raisons extrêmement confus dans le socialisme français, objectivement, qui partent un petit peu dans tous les sens, c'est
moins compris.
Voilà, c'est une grande tradition de confusion, d'ailleurs, qui et là, il misait un petit peu sur la clarté et la force mobilisatrice de la clarté, d'une certaine manière. Et alors, c'est un peu... Ça a partiellement fonctionné à la fin du 19e, puis ça a surtout extrêmement bien marché après. Le mouvement communiste, parce qu'encore une fois, vous le rappeliez, mais ça a été extrêmement diffusé. Je pense que si on faisait une enquête, bon, ce serait compliqué maintenant, mais on a des archives, des témoignages, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui ont été marxistes et qui se sont dit, ou même communistes, ou d'une autre sensibilité, à partir de ce texte-là. Vraiment. Parce que je pense qu'il disait pas forcément grand chose d'autre, parce que c'était trop long, ouais, et puis c'était des organisations qui avaient des gens qui étaient très peu diplômés, qui n'avaient pas beaucoup de temps, qui travaillaient dur et autres, bon quand il y avait quelques ouvrages à s'approprier, vraisemblablement ce type de livre avait sa fonction. Hein. D'une certaine manière, c'est plus riche que le manifeste du Parti communiste en termes théoriques, c'est pas tellement plus long, donc manifeste parce qu'un côté entraînant, avec une... mais c'est pas, après c'est subjectif, c'est très subjectif, c'est bon.
Je voulais juste dire une question en rapport avec à la fois l'actualité de cette réédition et tout ce que tu m'as expliqué tous les deux, y compris dans le rapport, enfin la perception qu'on pourrait avoir aujourd'hui de la critique, on va dire de l'anarchisme, hein, et des anarcho-marxistes, à ce moment-là. Donc ma question est la suivante, comment tu raccordes ça avec les commentaires qui ont été très peu évoqués au moment de la commémoration de la Commune, les commentaires que très nombreux et parfois assez cruels que font aussi bien Marx que Engels sur certains justement de ces anarchistes, utopistes, etc., y compris ceux pour lesquels ils étaient très bienveillants à beaucoup d'égards, et qui sont du genre des blanquistes et des blanquistes de longueur. Enfin bref, question, le rapport de la critique qui peut être faite dans ce texte-là, enfin dans la version en tout cas qui a été publiée, avec les commentaires que vont faire Marx et Engels à propos de la commune et des communards, et en particulier dans une série de textes et de correspondances où ils évoquent un certain nombre de justiciables.
Bah, c'est totalement la continuité de ça, parce qu'en plus, alors, il se trouve qu'il y a une coïncidence chronologique, mais qui n'est pas qu'une coïncidence, c'est que l'année, au moment où il publie ce texte, c'est l'amnistie des communards par la Troisième République. Vous allez me dire, quel est le rapport? Mais si c'est un rapport, c'est que, comme ils sont amnistiés, les communards, ben, ils vont pouvoir faire de la politique, et beaucoup d'entre eux vont se relancer dans la politique. L'exemple le plus connu, c'est Louis Michel. Et donc, si vous voulez, il y a un rapport. Si vous regardez très près, parce qu'effectivement, il y a eu les commémorations de la Commune, donc l'an dernier, et beaucoup d'odes à la spontanéité, aux gestes quasiment artistiques, hein, si je puis dire, des communards, mais toute la dimension critique marxiste, hein, qui est respectueuse de l'insurrection communarde, est quelque chose qui a complètement disparu de l'horizon, enfin, qui est quasiment jamais vu. Moi, j'ai fait 2-3 papiers là-dessus, alors j'avais quasiment un monopole, parce qu'effectivement,
même pour rappeler des nombreux sont venus me voir, écoutez, lisez Marx, vous avez toutes sortes de commentaires, vous êtes marxiste, vous avez tout un abondant corpus de Marx sur le sujet, personne n'y a fait référence.
Alors, les éditions sociales ont réédité La guerre civile en France avec tous les brouillons et manuscrits de Marx, en fait c'est le vieux volume de 1971 qui a été repris avec une introduction de Satis Kouvelatis qui est bien faite d'ailleurs là-dessus. Et pour revenir au contexte présent à ta question, ils ont beaucoup de problèmes matériels à l'époque, et puis bon, il y a des organisations balbutiantes, donc il ne faut pas s'imaginer un plan stratégique préconçu en permanence, mais globalement quand même, ils sont complètement obsédés par la France, parce que à la fois c'est là où il y a la dynamique insurrectionnelle, malgré tout, et en même temps, sur le fond, ils trouvent ça un peu ridicule, ce qui s'est passé. Ils trouvent qu'ils n'ont vraiment pas agi comme il fallait, et que le développement du socialisme français lui-même après la Commune est très en deçà de ses responsabilités historiques. Et puisque ça évoque la simultanéité, enfin la continuité des remarques critiques avec la Commune, j'ai plus la date exacte en tête, mais une des remarques les plus dures que Marx fait au communard, c'est un néerlandais, Nieuwenhuis, qui ne vous dira rien, mais Nieuwenhuis, pardon, mais qui était à l'époque une tête importante dans le socialisme néerlandais, et qui joue un rôle dans l'ensemble international, enfin bref, enfin, plutôt très critique et très anarchiste, mais à cette époque-là, il est en correspondance avec Marx, et une des correspondances où Marx est le plus critique à l'égard de la commune, où il dit vraiment que quand même les communards, c'est bien gentil, ils étaient à l'échelle d'une ville, c'est pas du tout ça qu'on veut faire, il faut qu'on fasse des organisations et autres. C'est en 1881, donc c'est vraiment juste après. Donc ils sont dans une démarche, entre guillemets, d'interpellation et de structuration du socialisme français. C'est pour ça que, quand ils sont en même temps qu'ils voient Guède, etc., c'est pas un hasard. C'est qu'ils se disent qu'il y a une sorte de potentiel révolutionnaire, insurrectionnel, critique, subversif, mais qui est complètement dénué suffisamment de cadre théorique qui ne leur permet pas de franchir un cap. Parce que, alors, si par fait tout le topo historique, il faut voir que la social-démocratie allemande existe déjà à ce moment-là. Elle a été unifiée en 1875, c'est le programme de Gotha, donc il y a la fameuse critique du programme de Gotha, enfin, c'est quand même un parti unifié, et que par ailleurs...
D'ailleurs, il fait des commentaires sur les socialistes français.
Oui, bien sûr, au passage, parce que même si ce n'est pas le sujet, du coup, les Français y passent quand même, parce que la Commune est bien de finir l'édition du Capital en français, donc c'est vraiment en même temps. Et voilà, donc c'est ça, c'est vraiment essayer de donner une charpente théorique à ce qui lui apparaît quand même politiquement comme... finalement assez faible sur pas mal de faits.
Peut-être juste pour ajouter aussi justement sur cet aspect un peu polémique que Marx et Engels ont pu avoir avec les socialistes français justement de cette époque-là, je pense que c'est peut-être que le texte socialisme utopique et socialisme français n'est pas si polémique que ça, en tout cas
non,
à l'adresse des,
non, pas du tout.
Des premiers socialistes.
Et c'est une brochure de formation.
Je pense que ce soit d'ailleurs, ça fait écho justement au manifeste aussi, hein, ils sont plutôt laudatifs envers ces premiers socialistes, et peut-être que ils le sont d'autant plus que les socialistes qui leur succèdent sont peut-être justement en deçà des premiers apports qui avaient été donc de ces premiers socialistes, et c'est d'ailleurs ce qu'il dit dans le manifeste socialiste, c'est qu'en fait, il explique que les premiers socialistes, ce qu'ils ont pu apporter comme élément critique était vraiment important, il a fallu les intégrer, mais que par contre, ce n'est plus adapté au contexte de l'époque, et justement, tous les écoles, etc., les héritiers de ces premiers socialistes, essaient de perpétuer en fait ces utopies, sauf qu'en fait, elles ne sont plus de saison. Et c'est ça justement que critique aussi Marx et Engels dès le manifeste socialiste, dans la petite partie sur les socialistes critico-utopiques. Et en fait, je pense qu'on retrouve un peu le même contexte dans ces années-là, où en fait le socialisme français est toujours en train de se diviser, et d'un point de vue théorique, il est toujours encore en cours d'élaboration, et c'est assez fragile.
D'où l'actualité du livre, quand on considère, à propos des critico-utopiques, la situation actuelle de ceux qui se prétendent encore de ce courant philosophique et politique.
Oui, c'est vrai que ça fait partie de la maladie française, typiquement française, qui avait bien identifié Marx et Engels, ce déficit de pertinence théorique en quelque sorte, qui à mon avis continue largement de sévir aujourd'hui. Peut-être même...
qui est approfondi,
gravement. mais finalement, ce qui est un peu étonnant, et voire même, déplorable, même si le mot est fort, c'est que en 150 ans d'histoire, la situation ne s'est guère améliorée. On pourrait même dire qu'à l'époque où cette brochure a été publiée, le socialisme français... avait moins pâle figure qu'aujourd'hui. J'ai même l'impression que la situation s'est peut-être même aggravée en France. Comme on disait tout à l'heure, plus personne ne parle d'exploitation, on parle que de domination. Enfin, toutes les références aux concepts élémentaires du racionalisme ont été évacuées de manière systématique.
Et toute référence au matérialisme historique, au moins autant.
Même au matérialisme.
Et au matérialisme tout court, bien sûr.
Donc, comment dire, c'est pas vraiment une question, mais c'est vrai que dans ce contexte de... Comment dire, dans ce contexte où... Enfin, il y a 50 ans, Lukács écrivait la destruction de la raison. Maintenant, on pourrait dire, ça y est, la raison, elle est bien détruite, quoi. Et je trouve ça très bien que ce livre arrive pour tenter de reconstruire un peu la raison militante. Surtout que, ce qui me semble remarquable dans ce livre, c'est que c'est un petit peu la fameuse préface de Marx. Enfin, on a vraiment un condensé de la méthode de réflexion marxiste, c'est-à-dire comprendre comment fonctionnent les choses pour pouvoir agir dessus plutôt que les phénomènes agissent sur nous de manière immanente. Enfin, pour moi, c'est le cœur de l'apport du livre, c'est vraiment d'apprendre le fonctionnement du phénomène de manière scientifique pour pouvoir le contrôler. Et l'exemple qu'il donne, que j'ai adoré d'un point de vue pédagogique, surtout que je suis physicien de formation, c'est quand il compare la foudre ou quand on subit un éclair, et maintenant quand on a la théorie de l'électricité, de l'électromagnétisme, on peut construire des choses et finalement ça nous permet d'agir dessus de manière active et pas de subir le phénomène. Donc, super livre, lisez-le.
Je crois qu'on a une question là. Je vais prendre le micro.
Moi, ce qui m'a intéressé sur la présentation que tu as fait par rapport aux idées justement qu'on a pu. Enfin, que, en fait, qu'il n'y a pas une opposition entre le socialisme utopique et le socialisme scientifique, et que du coup, il y a des choses qu'on a pu reprendre. Tu as fait une liste en parlant des différents points qui ont été repris chez chaque auteur, enfin, chez chaque personnage. Et c'est vrai que. Moi, qui étudie beaucoup plutôt l'Union soviétique et ce qui s'est passé dans les premiers temps, et puis aussi de la littérature qui en est sortie, c'est qu'il y a plein de trucs qu'on retrouve en fait directement dans le socialisme réel, quoi. Par exemple, sur le truc de façonner le caractère humain que tu dis qui est mis en avant par Owen, c'est ce qu'on retrouve sur l'idée de l'homme nouveau. Et du coup, qui est notamment mis en place, moi je trouve qu'il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est les expériences qui ont été faites par Makarenko, de formation de jeunes délinquants, dans des colonies, où du coup, l'idée de façonner ce caractère d'homme nouveau, de faire de ces jeunes délinquants, la pointe de la société nouvelle. Et après, du coup, t'as tout le truc, moi ce que j'ai relu récemment, L'acier fut trempé, du coup, qui est le roman d'Ostrovski, qui parle de l'immédiate révolution et après, où du coup on voit aussi ce truc des critiques des mœurs bourgeoises que tu dis qui est avancé par Fourier, qui est un truc qui est omniprésent en fait dans le bouquin, où du coup constamment t'as des personnages qui s'envoient des pics là-dessus, et c'est des personnages qui du coup se forment en même temps qu'ils font la révolution au socialisme, et du coup on a l'impression que tous ces trucs-là ils apparaissent en filigrane sur cette période-là, quoi. Oui, de toute façon, je pense que c'est ce qui est derrière le propos de Nagel, c'est déjà qu'il y a une continuité entre ces premiers socialistes et ensuite leur propre trait d'évolution. Après, on peut pas mettre en signe équivalent entre deux, il y a quand même une évolution, Marx a quand même, comme les Grecs ont contribué quand même à développer assez largement la théorie du socialisme. Après oui, sur toute la question de l'éducation, par exemple, Marx et Engels ont beaucoup commenté les textes pédagogiques, que ce soit de Fourier, de Owen, un peu moins sensiblement, aussi un peu moins penché là-dessus, mais c'est sûr que ça fait partie, à partir du moment où ces différents penseurs étaient quand même dans une certaine mesure dans une perspective matérialiste, et donc d'essayer de comprendre justement comment fonctionnait la société pour ensuite en déduire justement comment changer les choses, je parlais tout à l'heure d'agir du coup concrètement aussi, donc effectivement il y a une continuité à ce niveau-là. Après oui, il y a quand même un écart historique, après juste peut-être pour une petite précision sur, tu parlais donc de l'URSS, il y a eu aussi une diffusion très très large aussi de ces idées socialistes qui ont pas seulement, voilà, qui ont traversé les frontières, et donc souvent c'est comme ça d'ailleurs que Marx et Engels, avant même d'arriver en France, avaient déjà été entrés en contact avec les pensées de ces premiers socialistes, et donc c'est arrivé même jusqu'en Russie, et donc c'est pour ça qu'il y a déjà comment dire, cet héritage qui était déjà la même présent, en tout cas chez ceux qui s'étaient intéressés, pas forcément dans les élites, il y avait déjà une connaissance de ces premiers socialistes.
Oui, on peut dire les choses presque un peu plus brutalement, c'est-à-dire que je pense que toute une partie des gens auxquels ce signifiait de courant se réfère aujourd'hui comme Fourier et autres, je pense que tous ces gens-là auraient peut-être disparu complètement de l'histoire, si les marxistes ne les avaient pas édités systématiquement, y compris que les premières années de l'URSS notamment, ils éditaient systématiquement tous les utopistes avec ces introductions critiques et autres. Peut-être que c'est un réservoir d'expérience, c'est probablement des gens ont pioché là-dedans à l'époque, notamment au début des années 20, pour enfin quelque chose. Et c'est un phénomène connu, je me souviens d'un colloque en 2011, j'étais sur la Commune, à côté de moi un vieil historien communiste, donc il y avait un panel de gens qui ne disaient que du mal du marxisme, ils étaient venus pour ça manifestement, et c'était bien concerté d'ailleurs, c'était comme une sorte d'orchestre, ça marchait très bien. Et il me regarde, il me dit, mais ce qui est quand même incroyable, c'est que bon, si les marxistes n'avaient pas, pendant des décennies, ils disent la Commune, gloire quand même à leur héroïsme, même s'ils ont fait des erreurs et autres, bon bah on ne sait même pas ce que la mémoire de la Commune serait devenue, et peut-être que ce serait tombé peut-être en désuétude, parce que il a fallu des courants.
De choses qu'elle n'est systématiquement jamais enseignée.
Voilà, c'est que comme parallèlement elle était occultée, qu'elle a longtemps même été officiellement rejetée, on ne sait pas qui d'autre l'aurait portée d'une certaine manière aussi efficacement. Donc, et avec les utopistes, c'est exactement pareil. Je ne suis pas du tout convaincu que Owen aurait aussi bien traversé le XXe siècle si justement tous les communistes britanniques, bon, qui n'étaient pas très forts politiquement, mais qui étaient assez forts intellectuellement, avaient justement été un peu repartis tout ça et autre. Donc, en plus, c'est un mauvais procès, parce que c'est faire abstraction de toutes les contradictions et de tout comment ça s'est joué pendant des décennies, quoi. S'il y avait eu que des petits groupes anarchoïdes dans leur coin à valoriser cela, ben ça, vu leur force, ça a peut-être fini par tomber dans des excuses, quoi.
Au fil de l'histoire, l'importance qu'ils ont eue dans les événements historiques, près du...
Ce sont des pays, mais bon.
Oui, à part l'Espagne. Au passage, une question, l'envers dialectique, qui est dans le titre du livre, c'est le socialisme scientifique, dont vous en avez parlé, mais je sollicite de votre part à tous les deux une remarque sur une période où vous étiez un peu jeune, mais qui explique pourquoi tout ça a été pris en mauvaise part, y compris par la génération de ceux que j'appelle les maîtres ignorants. Bien qu'à l'origine de ça, il y ait tout un courant qui était supposément le courant du renouveau du marxisme à l'époque, c'était les Althusseriens, puisque Althusser, sa thèse principale, a dit qu'il n'était pas du tout scientifique, c'était de dire que voilà, le marxisme c'est de la science, et pas autre chose. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire pour resituer à la fois la désaffection dont a fait, pour cette raison, dont a souffert ce texte, à mon avis, pendant longtemps, pour cette raison-là, c'est parce que Althusser a fait, à mon avis, beaucoup plus de mal que de bien, y compris dans la diffusion du marxisme à partir de ce moment-là, en le calcifiant dans cette espèce de version néo-positiviste
du
marxisme. Alors que c'est, quand on lit ça, on voit très bien que c'est pas du tout ça qui est en jeu. Dans le travail de Engels et de Marx.
Non, puis ça n'a rien à voir, parce que, comme je disais, c'est une brochure d'intervention politique pour aider à la construction d'un courant politique, ça n'a rien à voir avec la démarche de Sissan, mais après, il y a un autre...
Le marxisme
comme science s'opposant justement.
Oui, mais alors.
Même si ça ne s'oppose pas.
Non, mais bien sûr.
C'est là-dessus que je voudrais que tu développes un petit peu.
Non, mais. Sur le...
À propos du texte, de la manière dont
oui.
le socialisme scientifique est présenté dans,
oui, mais alors,
dans cette brochure.
Alors, donc, l'enjeu, là, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, aussi, hein, Pierre-Henri, c'est que, y compris les utopistes dont il parle, ils sont convaincus de l'avancée de la science, c'est des enfants des Lumières, du progrès technique même, etc. Il y a une forme de fascination pour l'industrie aussi, des machines qui sont réelles. C'est trop bien marché.
C'est
la socialisation des progrès. Et là, vraiment...
C'est complètement inversé, comme on sait...
Voilà, le socialisme. Et donc, une des raisons, parce qu'effectivement, il n'y a pas que l'enjeu avec les utopistes, néo-zadistes et autres, c'est qu'il y a l'enjeu, c'est le texte qui défend, qui apparaît comme le texte de défense d'un socialisme ancré dans la science, ou très lié à la science, ou au moins lié directement à la science, etc. Et donc ça, comme il y a toute une partie de la gauche qui est effectivement devenue très anti-scientifique, où la science... c'est le progrès en un sens négatif, etc. Il est clair que c'est pas le texte qu'on a envie de rééditer, etc. Parce que vous avez des textes, même, là, vous pouvez publier davantage le jeune Marx, vous publiez même des textes qui sont très critiques du positivisme, du marxisme de la Deuxième Internationale, de type Karl Korsch et autres, ce genre de choses, est très facile à rééditer dans le contexte d'une certaine manière. Et ça, je dis Karl Korsch parce que pour un ouvrage que je suis en train de faire, ça n'a rien à voir, mais où il y a toute une partie sur les conseils ouvriers, j'ai... beaucoup du corps, il y a des choses d'ailleurs intéressantes, mais c'est pas ma tasse de thé. Et c'est marrant, je me rendais compte que par rapport à des textes comme ça, c'est un peu plus diffusé, un peu plus connu et un peu plus pédagogique. En Korsch a eu toute une veine éditoriale, même dans les années 70 bien sûr, mais récemment c'est Alga, c'est ça que ça s'appelle, je crois. Petit dire, qui a réédité, oui, parce qu'on presse. Et je me suis dit, ah oui, alors c'est marrant parce que toute une série de choses comme ça, en plus très datées paradoxalement, sont rééditées et les gens aiment bien ça parce que c'est justement la critique du marxisme trop scientiste, trop ceci, cela, alors que finalement, les exposés à
un peu... Les adeptes de la réification.
Oui, non mais, tu vois, c'est voilà, et donc c'est ce contexte-là qui explique que... Pascal Thusser, enfin...
Non, je sais pas Pascal Thusser, qui est un peu oublié, mais Pascal Thusser, il était très très marqué dans cette espèce d'image de scientisme positiviste qu'on va finir par coller, donc on va taxer les Staliniens, enfin tout ce qui
est
de près ou de loin... évoque le PCF et le marxisme de l'époque qu'on rendait coupable de tous les maux après 1968.
Oui, mais ça va même au-delà, parce qu'il y avait un enjeu de déconstruction de l'idée même de science comme quelque chose de progressiste.
Voilà.
Ce qui va même au-delà, parce que c'est même à l'île, même les courants d'extrême-gauche étaient plutôt pro-scientifiques pendant longtemps, etc.
Cette problématique de la science qui va être progressivement disqualifiée et le progrès associé à la science de manière absolument négative pour l'un comme pour l'autre.
Bon, voilà, exactement. Il y a toute une démarche dans une partie de la gauche qui consiste à critiquer de manière systématique l'idée de science. Alors après, on se demandait d'entre-développement parce que c'est lié à la Seconde Guerre mondiale, à l'extermination des Juifs, on a aussi...
Mais par rapport à la manière dont c'est présenté dans ce texte-là, c'est ça que vous voulez que tu
me rappelles. Oui, bien sûr. Oui, mais comment dirais-je quand ce texte-là est critiqué ou pris comme référence négative, c'est une référence négative quasiment, c'est quasiment tout le temps. Enfin,
oui,
ça, on va dire.
C'est la douleur.
Il y a un arrière-plan qui mêle différents contextes selon les acteurs, selon ce qu'ils énoncent. Il y en a certains, ça va être il faut renouer avec le socialisme qui fait rêver, mort au parti, au syndicat, parti syndicat science. D'autres, ça va être l'idée de science a été condamnée par l'extermination des Juifs, donc on ne peut plus considérer que. Voilà, plus dans une veine post-seconde guerre mondiale et autres. Et puis après, vous avez toute une série de... Enfin, les multiples... Il y a de multiples enjeux. D'ailleurs, ce sera intéressant de faire un ouvrage là-dessus, hein, sur la critique de la science dans toutes ces déclinaisons diverses.
Il y a la façon que j'évoque, là,
rapport
aux égalianomarxistes
et
leurs prétendus adversaires.
Oui, bien sûr, il y a tout cet environnement-là. Donc, de fait, c'est moins en tant que tel la démarche précise d'Engels dans l'histoire académique. Qui est-ce que ce texte représente? Parce que c'est ce qu'on disait au départ, et c'est pas ma marotte d'historien, c'est qu'il faut voir ce texte, parce que pour des gens qui ont éventuellement plus de 50 ans, ce texte-là, c'était absolument partout. Regardez, c'était diffusé, réimprimé, réalisé. Donc c'était le truc que tout le monde dit. Alors maintenant, plus personne n'a réédité depuis 20 ans, mais on ne fait que le critiquer, mais il est disponible parce qu'il y a beaucoup d'éditions d'occasion. Mais vous regardez, c'est un des textes qui est moins réédité. Je pense que ça doit correspondre à ce que je disais sur la critique. Donc. Alors que parce que le manifeste du Parti communiste, il est toujours édité. Hein. Le Capital, il est toujours édité. Il y a des creux, mais globalement, c'est des textes de référence.
Élu.
Mais celui-ci, alors que c'est le plus petit, c'est plus facile, c'est nul, et on n'en parle pas, on ne le réédite pas, et voilà. Donc c'est quand même et je pense que c'est lié moins au contenu, comme je disais tout à l'heure, qu'en fait, effectivement, entre les scientifiques, là, c'est l'horreur. En plus, on sous-entend, quoi, l'utopie, on en vit de rêve, et on ne veut pas parler de science, quoi. Et je trouve que c'est quand même c'est un symptôme très, très caractéristique. Parce qu'effectivement, on ne peut pas dire ça On ne peut pas dire que le manifeste du Parti communiste, ça a toujours été, évidemment, une vague. Bon, dans les années 70, c'était aussi lu que le Coran et la Bible, hein, donc c'est un texte qui ont pu égaler les textes des grands monothéismes. Celui-ci était juste derrière, et sauf que maintenant, c'est pas du tout considéré comme un texte. J'entends toujours quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui, au moment donné, va dire oui, et cette division terrible, etc. Et je suis convaincu que la plupart des gens qui disent ça maintenant, qui sont dans cette génération, n'ont pas lu le texte. Alors ceux d'avant sont marqués par ça, ils ont probablement lu, et puis il y aurait une espèce d'histoire parallèle à tout ça qui dit beaucoup de choses, encore plus que le fait de contredire Engels. Bon, bref.
C'est ça. Quel est le rapport chez Marx et Engels entre la critique du socialisme utopique et la critique de l'anarchisme? Est-ce que ça rentre, ou que ce soit l'anarchisme de Proudhon ou celui de Bakounine?
Question précise.
Il y a quelques éléments, mais...
Alors, je pense qu'il n'est pas tout à fait sur le même plan, même si ben, Proudhon s'est inspiré par exemple de Fourier, voilà. Mais si on prend rien que le manifeste du Parti communiste, déjà, il n'est pas tout à fait dans la même catégorie. Mmh. Donc déjà c'est un élément, et je pense que c'est pour moi c'est pas, en tout cas c'est pas la même, ils font pas, il y a plus une distinction entre ces premiers socialistes qui en plus sont appartiennent à une génération qui est déjà bien antérieure par rapport aux anarchistes, et en plus de ça ils n'ont pas du coup les mêmes oppositions d'un point de vue politique avec les anarchistes qu'avec les derniers représentants, qui en fait lorsque Marx et Engels commencent à avoir une stature internationale, les sociétés utopiques sont déjà un petit peu en désuétude, enfin c'est déjà un peu en cours de dissolution, ça va perdurer de façon un petit peu fragmentaire, mais c'est pas la même position par rapport aux anarchistes. Donc on peut pas les mêmes tout à fait sur le même plan, les deux.
La différence c'est qu'effectivement l'anarchisme est un courant à l'époque, si vous voulez, quand même, quand il y a eu des batailles, voilà, on est juste après la fin de la Première Internationale, donc... Les batailles contre les Proudhoniens et encore plus Bakounine et les Bakouninistes sont des batailles politiques extrêmement fermes, y compris en termes de manœuvres et autres. Il y a un plan, il y a un enjeu théorique bien sûr, mais il y a beaucoup plus de respect, me semble-t-il, dans ce qu'ont été les premiers socialistes utopiques et ce qu'on peut en puiser, que chez les anarchistes. C'est effectivement pas le même. Et les anarchistes, c'est vraiment une confrontation extrêmement brutale à ce moment-là. Donc c'est pas le même, même si dans les filiations ultérieures ça va se recroiser un peu.
Oui, et puis bon, comme Proudhon, Marx les a vraiment fréquenté,
il
connaissait très bien,
voilà, à Paris notamment, etc. Donc il connaissait ça de très près. C'est pas tout à fait ce même point. Et en même temps, c'est vrai que dans les héritages, bon après parce que vous allez avoir des anarchistes ou des libertaires très structurés par le syndicalisme par exemple. Vous en avez certains qui, là, on parlait du RSS, au moment de l'International Communiste au début, il y avait même des groupes qui ont été associés à l'International Communiste au départ, pas longtemps, mais ça a existé. Donc il y a une histoire un petit peu compliquée avec ces courants-là. Globalement, c'est plutôt un truc de confrontation politique quand même structurelle. Les utopistes, il y a plus fusé, là, entre guillemets, là. L'esprit, quoi, même de choses pour le mêler à d'autres choses. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Même si après, bon, les courants anarchistes vont bien aimer puiser dans les utopistes aussi, quand c'est des courants anarchistes qui sont pas tournés vers le syndicalisme ou la politique directement, ou vers les expériences concrètes d'utopie.
Juste une petite précision, Proudhon par exemple, lui-même est très critique aussi envers les premiers
socialistes. Oui, tout à fait.
C'est pour ça qu'en fait il y a déjà une distinction même.
On peut dire que l'opposition entre Marx et Proudhon est in fine surtout une opposition politique, plus que théorique à la limite. Alors qu'il n'y a pas du tout cette problématique avec les pères fondateurs de la génération précédente, parce qu'il n'y a pas de confrontation, y compris sur des situations politiques concrètes auxquelles sont confrontés en même temps, d'ailleurs, on parlait de la commune, par exemple par ces Proudhons ou tant d'autres.
Dans le sens que les deux dimensions théoriques et politiques se croisent.
Oui, enfin, je veux dire, excuse-moi, au sens où Marx, y compris dans ce texte-là, Marx et Engels, revendiquent comme des inspirateurs théoriques les socialistes utopiques.
Enfin, je n'ai pas écrit, donc alors, il a fait un moment.
C'est au début. D'un point de vue théorique, c'est
oui,
le
zéro. Oui,
voilà. C'est une concurrence qui est plus importante. Ouais.
Oui. Oui, ils se croisent plus directement, c'est ça aussi. Et après, il considère au début Proudhon que la propriété, c'est le vol, etc. C'est un grand texte, au début, il le considère en haute estime. Et puis après, oui, c'est... Et puis bon, Marx, objectivement, ne supporte pas l'idée, on peut comprendre, que quelqu'un d'aussi confus et approximatif que Proudhon puisse connaître un tel succès. non, mais c'est vrai. Et il y a un côté, il faut reconnaître que...
Il est consterné, comme on connaît aujourd'hui, quand on voit l'état des ventes, de ceux qui vendent.
Non mais il est con, parce qu'il faut voir, Proudhon, c'est la star hein, du socialisme français. On le voit bien dans le film Jeune Proudhon de Raoul Peck, là, comme il s'appelle la jeune Proudhon. Jeune Marx, j'ai dit quoi, le vieux Marx. Jeune Proudhon, oui. donc il n'est pas si jeune que ça, Proudhon, en l'occurrence en plus, mais on le voit bien, Proudhon, il vient avec on dirait aujourd'hui, son service d'ordre. C'est quelqu'un à Paris, il est député en 1848, il est connu, ça, Marx, c'est un inconnu total à ce moment-là.
C'est un influenceur.
Oui, quelque sorte. Donc il est vraiment, et donc Marx lit Proudhon, je sais pas si vous avez lu beaucoup de Proudhon, là, un mec qui trouve ça extraordinaire, moi ça m'a jamais beaucoup convaincu. Ah, mais si, il y a ça, hein, maintenant. Et c'est vrai que bon, il a une sorte de talent littéraire, bon, moi je trouve pas ça, même d'un point de vue terme, bref. Il a cette verve à la française bien pamphlétaire, sa propriété, c'est pas que la propriété est critique, mais ça tient pas vraiment debout, bon bref, mais c'est un succès incroyable. Et donc Marx voit ça, et il bosse sur le capital, et on l'imagine bien, parce qu'il est en train de s'énerver de ça, c'est français.
C'est la fameuse lettre,
horrible, quoi.
La fameuse lettre, je sais pas si tu l'as lu, non, là, il résume exactement tout ça.
Oui.
Il commence d'ailleurs par un relatif et
l'autre. Oui, bien sûr.
Non, mais cette lettre, c'est pour ça que je reviens.
C'est la lettre par la propriété.
Il écrit à un éditeur allemand qui a le projet, justement, de traduire et d'éditer Proudhon. Il demande son avis à Marx. Il n'est pas déçu. Je ne sais pas d'ailleurs si finalement l'éditeur en question a dit chez Proudhon, mais enfin.
C'est ça.
Alors même si c'est à la manière de Marx, donc avec un humour assez décalé, pas toujours compréhensible aujourd'hui, mais extrêmement cruel et sarcastique, y compris sur, sur l'époque, etc. Mais c'est ça, on sent qu'il est quand même...
Oui.
Qui a fait... qu'est-ce que vous allez perdre votre temps.
et quand il négocie, on n'avait pas mais avec la châtre pour le capital, la châtre donc c'est un espèce de personnage fantasque aussi, très parisien de l'époque, qui édite un peu plein de choses, et édite notamment Eugène Sue. Et donc là, c'est un romancier, c'est une star aussi, c'est le best-seller.
Et que Marx commence beaucoup dans
le... Que Marx commence beaucoup dans la Sainte Famille, en étant critique, et voilà, Marx, il est toujours un peu... C'est là où quand même il y a une opposition au Second Empire, il y a la Commune à main, et il dit c'est pas possible quoi d'avoir des abrutis pareils qui sont à la tête du socialisme avec un mouvement réel. Ça nous fait rigoler parce qu'en plus effectivement à l'époque on voit bien des personnages assez hauts en couleur, mais c'est vrai que ça reste en partie une énigme. Hein, donc il est clair que chez Marx c'est ça quoi. Il y a vraiment l'idée que je ne sais pas vous dire, Engels, c'est une grande partie quand même de sa vie après la mort de Marx sera ça, hein, d'essayer d'installer le marxisme dans toute une série de pays en se confrontant souvent à des personnages Voilà, même les gens sur ce qu'ils comptent quand c'est des Français comme Lassalle, donc c'est sa famille, hein, c'est son gendre. Il dit, c'est la fameuse phrase qu'il aurait prononcée. Bon, c'est pas vrai. Ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste, c'est quand même pour les Français, hein, c'est pas pour tous.
D'après ce qu'il
a ouais, d'après ce que,
il entendait une conversation justement son gendre, qui parlait supposément en son nom, ou marxiste, et je faisais sûr en tout cas si c'est ça être marxiste.
Oui.
Pas marxiste.
Voilà, c'est ça. Et ça peut être vrai dans la mesure où... mais c'était vraiment très tourné vers cet esprit-là. C'était pas tourné vers tous les gens qui s'étaient amenés du marxisme, c'était tourné par un certain esprit. Et puis c'est vrai qu'après, vous avez une longue histoire. Alors ça, c'est postérieur à la mort de Marx, mais Engels, qui va beaucoup s'intéresser au socialisme français, parce que justement, il veut, quand il y a le boulangisme, etc., que la part dit, mais c'est bien, on y va, allez, etc. Mais Engels, on imagine, c'est pas vrai, ça recommence, quoi. Enfin, c'est vraiment... bon, on peut rien faire.
Ça doit vous rappeler ce que nous avons fait ces derniers mois et encore aujourd'hui. Hein, c'est exactement ça.
Il y a un vrai esprit, ouais. Un vrai esprit commun, ouais, un peu que le gens qui saute sur des gens qui se mettent. Boulanger.
Les deux ou trois dernières années, ça rappelle quand même fortement ce que nous sommes racontés.
Et quand même, parce que vous savez, vous connaissez le mode scrutin en France, mais avant, en France, on avait le droit de se présenter dans plein de circonscriptions. L'équivalent des législatives. Donc en fait, plus vous aviez d'élections, plus vous étiez élu dans le nombre de circonscriptions, plus vous étiez gagnant. Après, vous choisissiez vos circonscriptions, après vous pouviez vous vanter d'avoir été élu dans 40, 50 circonscriptions. Et donc ça a été interdit à cause de Boulanger, parce que Boulanger faisait élire partout. Et puis on dit, on va avoir une flopée de démagogues qui vont se faire élire aux quatre coins de la France en 40 ans, qui vont pouvoir faire de la course à l'échalote, etc. Mais au-delà d'anecdotes, par contre, en 1848, les gens ils font ça encore. Donc bref, mais c'est... Mais c'est vrai que ce texte-là, c'est quand même fait pour ça. Hein, pour dire. Et ce qui est amusant, c'est que ce texte qui était quand même très 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 conjoncturel, un petit bout d'anti-during adapté aux Français, par sa vertu pédagogique, est devenu un manuel ensuite, alors, un peu adapté dans différents points, mais un truc de référence, quoi.
J'ai une petite idée, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Le marxisme, c'est pas une science, qu'est-ce que c'est? Bah non, mais est-ce que c'est une méthode d'interprétation du réel? Est-ce que c'est de la philosophie politique? Est-ce que c'est une épistémologie? Enfin, est-ce que c'est tout ça à la fois?
Donc, si on prend... Alors, si on reste dans la conjoncture particulière du début des années 1880 et qui est celle qui nous occupe comme le plus ce soir, leur idée, ça a été, après avoir trouvé une méthodologie pour comprendre, comment dirais-je, le capitalisme, en fait, parce que le capitalisme, en fait, c'est les modes de production sociale, donc l'histoire humaine, c'est d'avoir donné quand même des schémas d'interprétation de toute une série de choses, ça a été de le transformer en une idéologie qui puisse avoir une capacité à être représentée, on va dire, dans la sphère politique. Donc il y a un passage de ça à ça qui est assez spécifique en fait, parce que, évidemment, c'est ce que disent plein de gens quand ils travaillent sur les idéologies du 19e siècle, ils vont dire, bah oui, mais finalement, Marx, les autres, c'est une production théorique comme une autre, il y en a plein d'autres, bah, comme Nietzsche, etc. Mais sauf que la spécificité, c'est qu'ils ont cherché, et c'est là les difficultés qui suivent, de faire en sorte que cette idéologie devienne une réalité accessible à toute une série de gens qui ne sont pas dotés, on dirait aujourd'hui, en capital culturel et autres. Et ça, c'est une spécificité. Alors, effectivement, après, oui, tu vas dire, Marx, il a répondu.
Non, mais tu parles d'idéologie. L'idéologie, oui. A un sens dans le marxisme.
Ouais, oui,
je pense
oui.
Que Marx aurait apprécié...
Ça, non, oui, mais ce qui se décrit, c'est le marxisme quand on le comprend d'un point de vue politique. Comme courant politique, idéologique, effectivement. De ce point de vue-là, c'est une manière dont on peut présenter le marxisme. Mais la réponse à ta question, tu la connais par cœur. C'est le fameux passage, les deux pages dans l'avant-propos de la critique de la philosophie politique. Il te dit exactement ce qu'il a voulu faire, d'un point de vue théorique, c'est très dense, mais il te dit. Et ouais. C'est la fameuse postface ou préface, je ne sais plus, à l'édition, la seconde édition du Capital, où il commence par citer un économiste russe, qui est un nom allemand, et il te dit, ben voilà, c'est ça ma méthode, voilà ce que j'ai voulu faire, et tu comprends très bien ce qu'il veut faire, c'est-à-dire, il s'inscrit dans la lignée rationaliste classique, que nous connaissons parfaitement, en opposition avec une autre, et il te propose, ou dès le début, il te dit, la philosophie est au service de l'histoire. Qu'est-ce qu'il veut faire, c'est l'histoire. C'est ce qu'on va appeler aujourd'hui, dans nos termes modernes, abusivement une anthropologie. C'est une, dans le sens où on donne aujourd'hui une anthropologie.
On a du mal à définir. On dit que c'est une anthropologie, on dit que c'est une...
Non, non, mais c'est pas ça. Mais non, mais ça, c'est
dans les... pas tout ça à la fois.
Mais justement, c'est un système, c'est un système philosophique complet de la science, tout simplement. De la science au même sens que pouvait-on parler Descartes ou Aristote, les Grecs, etc. La connaissance de l'histoire de l'humanité, la comprendre dans ses mécanismes et dans l'ensemble de ce mouvement général est inscrite dans... et c'est pour ça qu'elle recouvre tout ce qu'on va appeler ensuite les sciences humaines. Postérieurement, c'était le fameux commentaire de Gustave, la bourgeoisie a inventé les sciences humaines pour évacuer le marxisme. Qui est justement les sciences humaines, où tu vas retrouver aussi bien évidemment de la sociologie, de l'histoire, de l'économie, tout ce qu'on appelle aujourd'hui sciences humaines et sociales, réunies dans un système qui s'inspire des sciences dures ou des sciences de fait, comme disaient certains qui n'aimaient pas ça à l'époque. Et qui se singularise évidemment par un présupposé matérialiste, d'où matérialisme historique et la dialectique. On a la méthode, le projet, la totalisation des disciplines de la connaissance. C'est un système de la connaissance exactement comme ça l'était à l'origine de la philosophie grecque, comme ça va l'être de nouveau au moment de la révolution cartésienne. Le système de Marx s'inscrit rigoureusement comme science et comme totalisation de ce point de vue-là.
C'est comme étape de la pensée scientifique.
C'est l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences
humaines. Une nouvelle étape de la pensée scientifique avec ses spécificités, tenant compte de l'évolution du capitalisme et autres, dont vous ne pouvez pas tenir compte, même Hegel.
Mais où le fait concret économique
évidemment,
matérialiste, prime l'idéologie.
Et politique, du coup, parce que les autres ne faisaient pas.
Absolument. Et évidemment, avec des conséquences politiques, au sens où nous comprenons la politique aujourd'hui.
Pour le coup, pour
c'est-à-dire qu'il met l'économie au premier plan et sans camoufler les intérêts.
Si on a un intérêt, c'est qu'elle doit passer immédiatement à la politique, puisque aucun grand esprit scientifique avant ne disait aussi explicitement, et même de manière aussi, entre guillemets, vulgaire, dans le bon sens du mot, dans le sens de la vulgarisation. C'est une invention du... C'est le premier parti français structuré, c'est un an avant ça, c'est pas un hasard. C'est pas qu'une coïncidence chronologique, c'est qu'on passe à un stade où pour que l'esprit scientifique puisse ne pas être, entre guillemets, ruiné par la bourgeoisie, parce qu'il y a sa mère, il faut qu'il y ait le mouvement ouvrier organisé et structuré. Sinon ça n'a pas de sens. Sinon c'est juste une bataille d'idées, et ça ne lui intéresse pas, en fait, de certaine manière. Tu dois rester à ça.
Tu n'as pas l'air convaincu. On va te laisser le mot de la fin, justement. Ça nous permet d'aborder la prochaine rencontre à la librairie, où nous aurons le plaisir de recevoir Stéphanie pour son dernier livre. Mais du coup, c'est pas du tout de parler, bien qu'il y ait dans ta question, évidemment, une thématique qui apparaît dans ton livre. On se laisse la conclusion de la soirée.
Non, mais je dirais que le marxisme, il a un statut un peu méta. Il n'est pas directement... il y a une économie marxiste, il y a une anthropologie marxiste, mais le marxisme, c'est plutôt la méthode de lecture du réel. C'est pas directement une science, je dirais, parce que c'est pas un ensemble de lois... Enfin, comment dire ?
Il y en a,
mais elles ne sont pas... Après, il faut l'apport objectif, il faut plonger dans le réel, analyser le réel avec ces outils-là. C'est une méthode d'interprétation du réel avec des conséquences politiques.
Plutôt d'analyse que d'interprétation.
Mais qu'est-ce qu'une science, sinon une méthode d'interprétation du réel ?
Là, c'est aussi un ensemble,
à partir de connaissances, bien sûr.
Il y a aussi un corpus de connaissances objectives.
C'est ce qui dénie la science, leur connaissance. Enfin, quand j'ai une critique de la science, c'est même les données objectives qui font consensus chez un certain de scientifiques, ils en arrivent à dénier ça, alors que le marxisme ne fait pas ça, par exemple. C'est vrai qu'il y a encore... C'est le débat même sur le rationalisme, qui est évoqué tout à l'heure, c'est que considère que... Oui, c'est... Donc, Lukács, la destruction de la raison, c'est que, donc, contrairement aux courants qui veulent détruire jusqu'à l'origine même de ça, c'est que le marxisme est dans une continuité, en plus. Hein. C'est ça, il y a un enjeu à dire ça, parce qu'il y en a qui vous expliquent que le marxisme a du cerf et tout, justement, a fait du mal à tout. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tellement, entre guillemets, nouveau et spécifique, que, en fait, c'est faux, en fait, parce que le marxisme est un héritier d'un certain nombre de choses, et défend, en fait, le meilleur de l'héritage bourgeois. Enfin, c'est un truc assez connu à l'époque, mais il faut le redire, parce que sinon on ne comprend plus quelle était la démarche. Hein. C'est comme on parlait de littérature tout à l'heure, c'est la même chose. Hein. L'idée, c'est pas... Il y a un grand débat, justement, à l'époque, contre le prolet de couche et tout, en URSS, qui était bien, est-ce qu'il faut s'aborder toute la littérature bourgeoise, on n'a plus rien à faire, uniquement une nouvelle littérature. Non, mais c'était des débats sérieux à l'époque. Hein. Et, ben non. Non, il faut...
Et l'autre aspect, c'est que les lois du marxisme ne sont pas comme des lois scientifiques,
oui,
pas comme les lois de la physique. C'est-à-dire qu'on n'a pas des formules qui suffiraient de la physique réelle. C'est des lois qui sont quand même très générales, les lois de la dialectique, etc. Après, tout le boulot reste à faire, en fait, à l'appliquer au réel, à chercher dans le réel où sont les contradictions, comment elles fonctionnent.
C'est les lois du mouvement de l'histoire des hommes.
C'est un mot très méta, très général.
On est en année à la conclusion, mais on pourra démarrer notre prochaine rencontre sur ce thème-là, mais je voulais juste dire que, comme il se le dit lui-même à propos, par exemple, de la dialectique, quand il est la fameuse apostrophe de Hegel qui l'a fait marcher sur la tête à cause de son mysticisme, etc., lui, il l'a remis sur ses pieds, elle a donc bien meilleure ligne, mais... Juste à ce moment-là précis, il dit des bons tons de bâcher, comme on dirait aujourd'hui, Hegel, de le ridiculiser, mais c'est quand même lui qui a le premier compris le mouvement. C'est cette idée-là. Si vous voulez ajouter quelque chose à la confusion, et d'ailleurs on va s'adresser cette fois, c'est quoi l'organisme. Et oui, il y en a quand même un qui n'a pas eu le temps aussi de donner son avis, donc c'est toi qu'on laissera la conclusion définitive.
Je voulais ajouter deux petites choses, c'est que des lois quantitatives chez Marx, il y en a. Alors, je me permets de le dire parce que je suis quand même un vrai scientifique. Je manipule des équations toute la journée, bref, je sais à peu près ce que c'est, toutes ces histoires-là. Dans le Capital, il y a quand même des lois quantitatives. C'est des lois qui ne sont pas de même nature que les lois de la physique. On va par exemple prédire la date d'une éclipse. Non, Marx ne prédit pas la date de la prochaine crise. Mais c'est qu'il dégage des tendances.
Oui.
Qui vont finir par arriver. Il prévoit à peu près quand même la fréquence des crises.
Qui explique le phénomène.
Oui, il explique le cyclique même des crises.
Il explique le côté cyclique. Il y a quand même la loi de la baisse tendancielle du taux de profit qui est bien une loi quantitative. Mathématiquement, on pourrait dire la dérivée est négative, ça décroît. C'est quand même une loi quantitative. Après, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que, à mon avis, ce qui change, c'est que Marx, à mon avis, interroge le mot même de science. C'est-à-dire que quand il propose, société scientifique, ça propose d'élargir la perspective strictement des objets des sciences. Parce que la science, enfin, du point de vue de gens qui feraient de l'histoire, de la littérature, de la philosophie, j'ai l'impression que pour eux, ce qu'on appelle science, c'est l'étude des objets purs, c'est-à-dire des objets sans sujet. Alors que là, ce qui est compliqué, c'est que dans le marxisme, on va aussi étudier des sujets. Et c'est ça qui rend la chose un petit peu difficile, et c'est pour ça qu'on est obligé d'introduire la dialectique, parce qu'effectivement, si on doit juste étudier des cailloux, si on veut étudier des trajectoires de cailloux, à mon avis, il n'y a pas besoin de dialectique. Personnellement, je pense, hein, j'y suis pas beaucoup.
Comme il faut conclure, vraiment, à toi
le mot de la fin.
Le mot de la fin.
Alors, merci déjà Stéphanie pour cette question, parce qu'effectivement, moi, c'est une question que je me suis posée en travaillant sur ce texte, effectivement, pour savoir, qu'est-ce qui permet vraiment le passage de l'utopie à la science, et qu'est-ce qui permet de dire que, justement, le marxisme est une science. C'est une question quand même que pose ce texte, effectivement, et bon, finalement, vu que c'est une brochure, Engels ne peut pas développer non plus, qui s'adresse en plus à un lectorat pas forcément scientifique, en tout cas très particulièrement éclairé. Donc, juste, je rappelle peut-être quelques... On a mis dans une des années, c'est un texte de Georges Sorel qui pose la question, lui, un peu inversée, est-ce qu'il y a l'utopie dans le marxisme aussi. Donc, il permet aussi de prendre un peu la question par l'autre sens. Et on aurait pu mettre deux années, on avait proposé aussi d'autres textes, qui posaient aussi la question, simplement, si le socialisme était scientifique, et c'est justement une des questions qui va agiter beaucoup le mouvement ouvrier international, et je pense que pas pour rien si c'est après la mort d'Engels aussi, comment que ces discussions vont avoir lieu. Donc il y a beaucoup d'articles, de conférences même, qui vont porter sur ce thème en
France,
en particulier en Allemagne.
Ah oui, c'est vrai. On avait eu un débat au séminaire là-dessus.
Voilà, oui. Donc moi, personnellement, quand je devais répondre à la question donc, posée, je crois que quand j'avais commencé vraiment à m'intéresser au marxisme, j'avais commencé par le petit peu dans les Lefèvres, et je crois dans son introduction, disait que le marxisme c'était la dernière grande vision du monde. Et donc moi, je pense que je prendrais cette définition qui est un petit peu certes large, parce que c'est à partir de cette vision du monde, mais effectivement à laquelle ça arrive ensuite un projet politique, et ce qui fait la différence peut-être avec l'utopie, c'est que les utopistes, eux, ont tendance à conférer un devoir-être, quelque chose qui devrait être, alors que Marx prend la démarche un peu inverse et part de ce qui d'expliquer la rationalité de ce qui existe pour ensuite pouvoir justement, à partir de cette étude scientifique justement de la société cette fois-ci, en empruntant des méthodes, en tout cas des concepts, voilà, et empruntés aux sciences plus naturelles, il y a toujours cet esprit un peu scientifique quand même, c'est qu'on a déjà chez Utopiste et qu'on retrouve un peu chez Engels, ouais, qui s'intéresse beaucoup aussi à toutes les différentes études de sciences. Et qu'il y a quand même ce projet, je pense, de vouloir faire un parallèle entre ces sciences naturelles, dans lesquelles on peut dégager des lois, le terme même de loi est pris, utilisé par Engels, qu'on puisse justement les appliquer, bien sûr, aux sciences humaines, en tout cas aux sociétés humaines, et donc à partir de là, essayer de construire justement un projet politique, mais qui cette fois-ci s'arrive vraiment au réel, et à partir duquel on puisse construire une véritable, dans le mouvement historique, comment se mettre dans le mouvement historique de la dialectique, pour justement permettre de construire une véritable alternative politique. Et c'est ça justement qui fait aussi l'opposition avec les anarchistes ou avec les autres utopistes. C'est le fait de ne pas forcément partir d'un devoir être, mais partir plutôt de ce qui est vraiment et comment est-ce qu'on peut le transformer à partir de là. Voilà,
eh bien, merci à tous. Merci. Bravo.
C'est le modèle
c'est Darwin, évidemment, pour Marx. Il le dit très clairement,
effectivement.
Et c'est facile de comprendre, y compris ce qu'on a évoqué, la baisse tendancielle de taux de profit ou la circulation du capital ou des choses comme ça. C'est son modèle, c'est Darwin. Il paraît même que il avait ça j'ai pas pu le vérifier, je m'adresse à l'historien, qu'il avait souhaité à un moment donné demander à Darwin de préfacer le capital. Est-ce que c'est vérifié ça?
J'ai entendu
dire, mais je ne
crois pas qu'il y ait de documents.
Oui, voilà.
C'est
une rumeur.
Ce qui est certain, c'est que la fameuse lettre, j'ai mis dans Marx de la Z, là, où il dit que vraiment, il veut faire au capitalisme ce que Darwin avait fait avec l'origine des espèces. Voilà, c'est vraiment. Très grande admiration pour ça.
Donc, à bientôt. Merci à tous. Voilà, vous pouvez continuer de poser des questions, mais là,
j'arrête. C'est fini l'enregistrement.